泣いて流した女の涙をそっと川に浮かせばさ、男を溺れさす。
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure, Francis Gavel au micro. Alors même que le sommaire de cette émission nous tiendra éloignés de l'actualité cinématographique et plus encore de l'actualité cannoise, notons au détour l'absence de mon complice et partenaire Thomas Fouet, soumis depuis 15 jours à une intense déambulation pédestre et cinéphile sur cette azuréenne croisette, que notre album du mois nous y ramène à travers la réédition avec audio remasterisé d'Ajaki Yuta, premier album de l'actrice japonaise Meiko Kaji. De fait, celle que le festival Lumière, rendez-vous mondial et lyonnais du cinéma de patrimoine, présentait à l'occasion d'une rétrospective en 2022 comme l'incarnation japonaise de la vengeance et de l'insoumission, tout en insistant sur son regard intense dans un visage impassible, s'ouvrit au chant parce que les producteurs des films et séries dont elle était l'héroïne l'obligèrent, elle était sous contrat, à en interpréter les chansons-titres. Ainsi de Ona no Jumo, titre écouté en ouverture d'émission qui figurait dans La Femme Scorpion, une série inspirée du film éponyme et comptant la soif de vengeance de Matsu, jeune femme livrée à des yakuza par l'homme qu'elle aimait. Et là vous vous dites, une jeune femme trahie par l'homme qu'elle aimait, livrée à des tueurs, mais ne serait-ce pas le diptyque de Quentin Tarantino avec Uma Thurman, Kill Bill? Et vous n'aurez pas complètement tort. Puisque ce film, et plus encore un autre, dont Meiko Kaji était également la vedette, Lady Snowblood, sont des sources d'inspiration revendiquées par l'Américain qui, en fan absolu de l'actrice, utilisera Uramubushi, une autre chanson de La Femme Scorpion, comme illustration musicale de Kill Bill volume 2. Nous écouterons Uramubushi en toute fin d'émission. Mais assez parlé cinéma, parlons un peu musique et revenons sur cet album, Ajaki Yuta. Initialement sorti en 1973, il constitue le deuxième opus d'un corpus de 5 disques pour le label japonais Techiku et se classe du côté d'une pop luxuriante, aussi psychédélique par sa guitare fuzz que latino-américaine par ses percussions, tout en s'inscrivant dans le prolongement du... Et là, ça va être compliqué à dire... Kayo Kiyoku et de l'Inka, styles musicaux populaires à l'origine de l'actuel J-pop. Mais grâce suprême, ce que l'on retiendra en guise de conclusion à cette chronique, c'est la voix soyeuse et déterminée de Meiko Kaji, qui ne connaissant rien à la musique, ce sont les propres dires de l'actrice, fit le choix d'interpréter ses complaintes chantées comme l'auraient fait les femmes rebelles qu'elle sublimait à l'écran. proustienne de par son titre et de ce fait littéraire dans ses aspirations, mais devant avouer néanmoins que son animateur n'a jamais lu que la première phrase de « À la recherche du temps perdu », notre émission évoquera aujourd'hui ses commerces, librairies, magasins de disques que des temps de pandémie et une parole gouvernementale ont tenté de nous faire croire non essentiels. Alors, avant d'arpenter le catalogue d'un disquaire, par ailleurs à l'origine d'un label rééditant des perles rares de la musique underground française des années 70-80, laissons-nous pas nous emmener vers une place de marché Val-de-Marnaise, creuset de l'adolescence de celui qui parle à l'instant même, la Madeleine proustienne, c'est maintenant, et préservé d'un urbanisme par trop galopant du fait même de sa topographie à flanc de coteau. Ici, non loin d'un traiteur aux menus antillais, thaïlandais ou haut de Seine succulemment gustatives, une petite librairie vous autorise à pratiquer langoureux droit à la paresse et art de la flânerie. Une librairie à la notoriété certes moindre que celle d'illustres consoeurs visités en diverses occasions, la librairie de la main face à la Comédie française, la librairie 1000 pages à Vincennes, mais une librairie soucieuse de la nouveauté comme du livre ancien et dont le propriétaire, Alain Brossard, ce matin notre premier invité, peut choisir de vous conseiller, dans un souci d'intimité, un livre de François Cheng, poète d'origine chinoise cultivant la langue française, en vous offrant ces quelques mots du romancier. La mort entraîne la mort, mais la vie engendre la vie. Les sages anciens l'ont dit avec cette confondante simplicité. Ce que les morts laissent aux vivants, si ces morts ont été non des semeurs de morts, mais de vrais vivants, c'est certes un chagrin inconsolable, mais aussi un surcroît de devoir de vivre, d'accomplir la part de vie dont les morts ont dû apparemment se séparer, mais qui reste intacte. C'est la manière pour les vivants de remettre les morts dans la voie de la vie, c'est la manière pour eux de ne pas succomber à la mort. Alain Brossard, bonjour.
Bonjour Francis.
Alors, ma première question, avant qu'on parle de vos coups de cœur du moment, est-ce qu'on peut dire qu'à l'instar, par exemple, d'Obélix qui petit est tombé dans la potion magique, vous, petit, vous seriez tombé dans la librairie ?
Alors, chez nous, on dit que nous sommes nés dans le livre.
D'accord.
Effectivement, je suis le descendant d'une, on va dire, une dynastie de libraires, puisque mon grand-père a fondé la première librairie Brossard en 1949. Et il y a toujours eu un des enfants qui, passionné de lecture, a repris ce commerce.
D'accord. Alors, justement, comment vous avez... Donc, j'ai dit que vous étiez Val-de-Marnais, donc on va préciser que vous êtes à Thiers, et que donc la librairie se trouve place du marché. Comment vous arrivez à Thiers ?
Alors, nous avions donc depuis 1949 une librairie sur la place de l'église à Choisy-le-Roi, qui est la commune attenante à Thiers. Et j'ai été contacté, il y a maintenant 4 ans, par la mairie de Thiers, qui désirait fortement installer un libraire dans sa commune, puisqu'il n'y en avait pas. Et j'ai bien réfléchi, j'ai regardé, visité, et j'étais inspiré par non seulement cette petite place du marché, mais le local.
Ouais.
Et donc, il y a 3 ans, j'ai fait le grand saut. J'ai changé de commune.
D'accord.
Je suis passé à Thiers.
Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui ne verraient pas très bien où se localise Thiers et qui ne passent pas leur temps sur Google Maps, on peut dire que Thiers, c'est donc il y a Choisy, qui est une ville limitrophe, mais on peut aussi trouver non loin Créteil, Orly, Villejuif, hein, voilà, pour délimiter un peu le territoire. Alors... Justement, c'est sur cette place du marché que j'ai décrite comme paisible. Est-ce que vous, en tant que libraire, alors c'est une place du marché où il y a peu de commerçants, où il y a surtout des, comme on dit, des commerces de bouche. Est-ce que vous avez l'impression justement que cette arrivée d'une librairie, ça crée un supplément d'âme, quelque chose de différent du rapport à l'ère du temps et au temps
alors,
qui passe?
C'est plutôt en fait la population, les clients. Qui m'ont fait part de ce sentiment, puisque moi, évidemment, je n'y vivais pas avant. Oui, effectivement, on m'a dit que, depuis que la librairie est arrivée, la place a retrouvé, justement, une âme.
D'accord.
Et il y a pas mal de personnes qui ont découvert en même temps cette place, où il y a des très bons commerces de bouche, d'ailleurs, excellents. Et j'ai beaucoup de clients qui étaient avant mes clients sur Choisy-le-Roi, qui maintenant montent. Alors, ils montent pour la librairie, évidemment, la première fois. Et puis, ils se rendent compte qu'à côté, il y a des parcs, que c'est paisible. Mmh. On a l'impression, en pleine banlieue parisienne, d'être vraiment dans un petit village. Alors sur la place, il y a des oliviers, des pins, donc il y a un petit côté provincial dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui pointe.
Voilà, il manque plus qu'une terrasse de café avec des tables dehors, pratiquement.
La terrasse de café va être là à partir de ce week-end.
On fait bien de parler de tout ça, donc vous avez compris qu'on vous emmenait, chers auditeurs, chères auditrices, un petit peu de ce côté-là. Alors évidemment, bon, Alain Brossard, on vous a fait venir pas uniquement pour parler du quartier, de cette place, de ce cœur de ville, comme on dit parfois, mais évidemment pour évoquer vos coups de cœur littéraires du moment. Et donc en préparant cette émission, vous m'avez effectivement proposé différents livres. Et j'ai remarqué alors que c'était une actualité fortement imprégnée par les éditions Gallimard.
Écoutez, c'est un petit peu le hasard. Hein. Là, on n'y peut rien, puisque là, le premier livre que je voudrais vous présenter plus brièvement, puisqu'il a déjà eu suffisamment de publicité, mais il est excellent, c'est Les Amants de Casablanca de Tahar Ben Jelloun. Et par contre, le deuxième, si vous me le permettez, c'est un petit peu plus confidentiel, même si c'est édité chez Gallimard, c'est la collection L'Arbalète, qui n'est pas la plus facile de chez Gallimard, et c'est un livre de Michel Audin, et qui concerne une rue, un quartier, et une période, la commune, qui m'est chère.
Bon, alors on commence donc par le livre de Tahar Ben Jelloun, Les Amants de Casablanca. Alors comment présenter ce livre ?
Alors, ce livre, c'est un de mes coups de cœur de, on va dire, d'été, entre guillemets. Moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il oscille entre la fresque sociale et le roman psychologique. Et ce qui m'a beaucoup plu, ce qui fait que je le présente ce matin, c'est qu'il y a une extrême finesse de description du sentiment amoureux, et ce, tant pour la femme que pour l'homme. C'est parce que souvent, on est dans la tête de l'un, soit de l'autre, alors que là, justement, on oscille entre les deux. Et d'ailleurs, le livre démarre avec ce couple. Lui s'appelle Nabil, il est médecin pédiatre. Elle s'appelle Lamia, elle est pharmacienne. Ils sont tout jeunes amoureux, ils vont se marier dans les jours qui viennent. Et ils sont allés regarder ensemble Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman.
C'est une bonne idée, ça, avant de se marier.
Et oui, et en fait, le livre... c'est l'histoire de la déchirure de ce couple. Mais ce qui est très intéressant dans justement la façon d'écrire de Tahar Ben Jelloun, c'est que tour à tour, le récit bascule de l'ami à la femme à Nabil, l'homme. C'est-à-dire que chaque chapitre, en fait, correspond à la voix de l'un puis de l'autre. Alors dans la tête de Lamia, c'est évidemment toute cette nouvelle génération de jeunes femmes marocaines qui assume à la fois sa modernité et sa révolte face au patriarcat et au diktat de la religion. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport avec la scène de la vie conjugale, c'est qu'il y a un côté très cinématographique dans l'écriture de ce livre, puisqu'en fait on est dans ce qu'on appelle au cinéma le chant et le contre-chant. Et donc on alterne comme ça entre les deux personnages principaux qui vont raconter en fait leurs sensations de justement ce divorce, cette déchirure, les amants, les amantes, la vie amoureuse. Alors moi, ce que j'ai envie, c'est de vous lire un extrait d'un interview de Tahar Ben Jelloun.
D'accord.
Donc c'est lui qui parle. C'est une histoire d'amour, et dans toute histoire d'amour, il y a de la trahison. Ça va ensemble, et la trahison ne va pas venir de là où on l'attend. Et surtout, j'ai voulu rendre hommage à la femme marocaine, moderne, nouvelle, qui se bat, qui prend le pouvoir, qui ne se laisse plus faire. Évidemment, le pouvoir économique aide beaucoup. Et il y a une volonté de vivre sa vie comme elle l'entend, y compris dans la trahison. Voilà, ça c'était un extrait de Tahar Ben Jelloun qui montre bien, en fait, ce qu'il a voulu nous montrer à travers ce livre. C'est aussi la condition féminine actuelle de ces femmes. Moi, je connais assez bien le Maroc, et effectivement, il y a une montée. Alors, est-ce que c'est pour après At Me Too, etc., je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une volonté de liberté féminine et féministe qui s'est bien levée.
Donc, on peut considérer que le livre de Tahar Ben Jelloun s'en fait finalement l'écho. Et en même temps, voilà, ça s'inscrit effectivement comme ça dans un courant de... Je l'ai pas lu, j'ai pas encore eu cette occasion, mais comme ça, en parlant justement, en faisant ce rapprochement avec le film de Bergman, qui est quand même le film d'un déchirement du couple, que voilà, un couple y compris justement Maroc, n'est pas forcément quelque chose de figé par un poids de la tradition.
Voilà, c'est vraiment la photo. Pour moi, c'est vraiment la photographie actuelle du couple dans une société maghrébine, et en particulier au Maroc. Même si la seule différence, on ne peut pas l'extrapoler partout, c'est que les deux protagonistes, Nabil et Lamia, sont des gens très aisés.
Oui.
Puisque elle, un médecin pédiatre, et donc le côté effectivement pécunier ne rentre pas du tout dans l'histoire. Mais c'est une très belle histoire quand même d'amour. Il faut justement le lire pour ça.
D'accord. Bon, alors,
ce n'est pas que la déchirure.
Ok. Bon, donc roman intimiste de Tahar Benjenoun, on dira. Donc Les Amants de Casablanca, évidemment dans la Blanche chez Gallimard. Et donc alors maintenant on en vient donc au fameux livre qui vous tient tant à cœur de Michel Audin, Paris Boulevard Voltaire suivi de Pont.
Alors Michel Audin est une auteure qui fait partie de l'Oulipo. Et un petit peu comme Le Tellier avec sa fameuse anomalie. Et dans ce livre, justement, ce qui est très intéressant, ce sont des courts chapitres, c'est qu'à chaque fois, il y a un essai stylistique. Alors, je vais quand même vous lire l'exergue que Michel Audin a mis avant sa préface. C'est un texte de Jules Vallès, qui s'appelle La Rue, et qui a été écrit en 1867. Jules Vallès. Celle qui mène au boulevard et celle qui aboutit au faubourg. La rue que tous traversent pour aller à l'hospice ou au bal, au bureau ou à l'atelier, à la bourse, à la halle, au travail, au plaisir, à la roquette, au cimetière. Habitée par des chiffonniers ou des millionnaires, mordée de monuments ou de masures, de casernes ou de chantiers, de boutiques ou d'échoppes, pleine d'odeurs, de bruits, pavée de hasard, où tous se rencontrent et se retrouvent. Asile des vagabonds, paradis des flâneurs, chemin des régiments. Alors dans ce livre, Michel Audin nous fait en fait participer à une promenade. Une promenade sur le boulevard Voltaire. Et donc c'est toute la montée de la place de la République jusqu'à la place de la Nation. Alors cette rue, elle a évidemment une grande histoire, puisque... Le boulevard Voltaire, c'est quand même une des plus longues lignes droites du Paris haussmannien, puisqu'elle fait quasiment 3 kilomètres. Le pouvoir impérial de l'époque y assoit sa maîtrise militaire, puisque il voulait maîtriser les faubourgs, que ce soit Saint-Antoine ou du Temple. Et l'avantage pour le pouvoir impérial, c'est que dans cette rue, dorénavant, on peut y charger à cheval ou tirer au canon.
Ce qui est très pratique.
Voilà. Alors, après, on rentre effectivement dans les... je vais appeler ça des stations. C'est-à-dire qu'on se balade, et puis à un moment donné, on trouve un banc, on s'assoit, et on regarde. Alors, la première halte, c'est évidemment Place de la République, qui s'appelait d'ailleurs Place du Château d'Eau. Et là, c'est un personnage qui prend la parole à la première personne du singulier. Je me souviens très précisément des quelques années, etc., etc. Et dans ce chapitre, on va se retrouver au moment de la Commune. Alors, pour vous montrer un petit peu l'évolution de l'écriture de Michel Audin, je vais vous lire un petit passage du premier chapitre. Et donc, c'est ce personnage, dont on ne sait pas qui il est, ni ce que c'est, qui parle. Nous sommes restés seuls, mes collègues et moi, dans un petit fond d'eau stagnante, avec de la cervelle, des caillots de sang et autres débris humains. Puis on nous a emmenés à la fonderie, où nous avons passé un mois en soins intensifs, et ensuite sur le terrain vague du boulevard de la Gare, près du pont de Bercy, en convalescence. Ne me demandez pas ce qu'est devenue ma belle écharpe rouge, je n'en sais rien. Nous avons pu rentrer chez nous qu'au bout de 3 ans, et là enfin nous avons craché, ce qui prouve que nous étions bien guéris. J'ai eu de la chance, j'ai retrouvé ma place face au boulevard Voltaire. L'environnement avait changé, les immeubles avaient été réparés, bien entendu, mais la population aussi était différente. Beaucoup de nos jeunes n'étaient plus là, mais nous crachions en chœur, ce qui était quand même pour nous une consolation. Donc,
voilà, effectivement, donc on révèle pas d'où vient le point de vue, là.
Là, pour l'instant, non. Justement. Et donc, c'est ce personnage, sans genre, qui raconte justement cet événement des charges de la commune. Et puis, parce que, en fait, si on est un petit peu malin, on lit le début et le titre de cette halte, et on voit « Un lion mélancolique observe ». C'est le sous-titre du titre. Et, ce qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit petit à petit que c'est une des fontaines qui était sur la place du Château d'Eau, qui parle et qui raconte. C'est pour ça que dans le texte, d'ailleurs, on se dit « Mais ça fait des années et des années, on sent le temps qui passe et celui qui parle ne semble pas changer, lui. » Et alors, ça, c'est... je vais vous le lire aussi, parce que ça, c'est génial.
Faites.
Alors, donc, c'est toujours ce personnage indistinct qui parle. Notre dernier bonheur sur cette place, ce fut le 30 juin de notre dernière année, la fête nationale, avec ses illuminations électriques. On ne cessait de nous dénigrer. Et puis, il y avait réussi à la consoler, leur République. Il fallait donc donner son nom à une place de Paris. Et c'est la nôtre que l'on a choisie. Et il fallait y mettre une statue de la République, justement. Ben, je vois pas bien pourquoi la République doit être une femme. Et pas, par exemple, un lion. Mais enfin, c'est comme ça. On nous a donc emmenés et ramenés à Bercy. Ils ont organisé leur nouvelle fête nationale, le 14 juillet. Cette fois avec leurs grosses dondons en plâtre, provisoirement, bien placides et statiques. Ils espéraient sans doute que la République serait aussi stable que son allégorie. Aussi, confiné derrière les palissades de Montérin Vague, j'ai raté le retour de mes ouvriers militaires qui avaient eu le droit de revenir à Paris juste avant la fête. Et ben, ce personnage, il va effectivement finir sa vie, et il finit sa vie là. Je crache, place Félix Éboué, au métro Daumesnil, dans la fontaine du Château d'Eau. Je m'occupe en repensant à cette année terrible de ma jeunesse. C'est ainsi que vous me reconnaîtrez. Je suis le lion qui pleure. Voilà, c'était une des fontaines, donc, qui raconte sa vie. Et moi, j'ai trouvé ça, c'est très touchant, alors évidemment. Et puis, il y a surtout le récit, en fait, des barricades, qui est très poignant. Quoi.
Alors, si on avance un petit peu dans ce livre, sur quoi vous voudriez encore attirer notre attention ? Vous me parliez, hors antenne, avant l'émission, de ces énumérations stylistiques, par exemple.
Alors, juste avant,
présentes.
Je voudrais quand même montrer, parce que là, on est donc la commune, fin 19e, et justement, pour ne pas avoir une unité de temps, la deuxième halte va se passer en 41, au moment où le pouvoir allemand, en fait ce qu'on appelait les avis, où on interdit, entre autres, au Parti communiste français de faire toute action. Et là a lieu, dans ce chapitre, à l'angle de la rue Angoulême, eh bien, une révolte d'étudiants qui brandissent le drapeau français et chantent la Marseillaise, évidemment. C'est là où on a notre premier personnage, Georges, un casquetier, un ouvrier textile, qui va prendre part à cette manifestation. Et plusieurs de ses amis seront fusillés. Donc là, on reste dans l'évocation de l'épuration de 41 et de 42. Mais c'est surtout à partir de 41 avec les avis, où là... Là, pas mal, on finit à Auschwitz.
Voilà, alors effectivement, juste pour rebondir sur ce que vous dites, on peut constater dans ce parcours de Michel Audin, ce parcours littéraire, ce parcours géographique, que elle éclate effectivement la temporalité et qu'on passe d'une période à une autre en allant jusque dans un temps plus contemporain et plus intime, puisqu'elle parle par exemple d'un cinéma à Saint-Amboise où elle a l'habitude d'aller, et qu'on revient aussi dans des évocations de la commune, du début du XXe siècle. On voyage dans le temps, quoi.
Exactement, et c'est d'autant plus que là, on a parlé des deux premiers chapitres, mais le troisième chapitre, pardon, il est devant le Bataclan en 2022 et en 2015. Cette période. Et le chapitre s'intitule « 90 clous pour se souvenir ». Bon, ça, je vais vous le lire parce qu'il est très court. Et bah, c'est le rappel, évidemment, de ce qui nous a tant marqué. Boulevard Voltaire, boulevard Voltaire, 90 clous. Je ne les ai pas comptés, mais je le crois. 90 clous, pas pour traverser, plantés sur le trottoir devant Bataclan. Pas pour traverser, pour se souvenir de 90 morts ici en novembre. Pour se souvenir de ce que nous cache la marée irrésistible de l'oubli. Donc vous voyez, là on passe effectivement du 19e siècle, on est rentré dans le 20e, là c'est extrêmement contemporain. Tout ça pour dire qu'effectivement, la temporalité n'existe pas là-dedans. Et puis il y a, effectivement vous l'avez vu avec ce court chapitre, c'est l'exercice stylistique. Michel Onin ne fait pas partie de l'Oulipo pour rien. Et je pense que justement, elle s'est donné une contrainte pour écrire ce livre, comme ça se fait dans les exercices oulipiens. Et chaque chapitre, en fait, est exprimé dans un style différent. Et ça, c'est très agréable, parce qu'on a l'impression, en fait, de lire plusieurs livres dans un.
Et donc, alors je regarde un petit peu notre pendule en même temps, peut-être pour en revenir donc à cette énumération stylistique qu'on a évoquée en préparant cette émission, il y a un des textes qui effectivement procède complètement de cette manière-là et que vous allez sans doute sur lequel vous allez sans doute attirer notre attention.
Oui, et puis après, il faudra que je parle quand même de Nestor Burma.
Bon, et après parce on parlera de Nestor Burma. Bon, deux secondes sur un Léo Mallet inexistant.
Voilà, ou un Léo Mallet qui, enfin vous verrez, qui se prend des coups. Alors attendez, il faut que je le retrouve, celui-là. C'est vrai que là, en fait, on se retrouve. Elle va nous montrer, en fait, toutes les marques.
C'est 10 angles rue des Boulets.
Voilà, alors. Et avec une énumération de toutes ces marques qui ont marqué les années 50-60, de Kodak à un peu tout le Frigidaire. Et alors attendez, parce que là j'arrive pas à la trouver.
Alors c'est page 77.
D'accord, donc là voilà. Ah oui, alors ça c'est excellent ça. Voilà, là en fait on est après, au niveau temporalité, on est en 62, après la répression de la fameuse manifestation de 62, et l'exercice de style, c'est ce qu'on appelle une énumération stylistique. Alors, ils étaient réveillés par la sonnerie de leur réveil jazz. Elle utilisait la nouvelle cafetière Mocaseb. À leur café, ils ajoutaient du lait écrémé Gloria instantané, qu'ils préféraient au Régilet. Ils se lavaient les dents avec du dentifrice Signal, celui aux rayures rouges, ou du Colgate qui protège et blanchit les dents. Elle utilisait de la laque L'Oréal en atomiseur. Ils se rasaient avec un rasoir électrique Remington. Une lame Gillette, Palmolive, etc., etc. Évidemment, le stylo Waterman, ça on ne peut pas y échapper. Et puis, pour ceux qui étaient jeunes à l'époque... Dans son sac, il y avait parfois des bonbons pchit ou des petits pains zan en sachet de poche. Alors ça, moi j'ai connu ça. Le petit jouait avec des voitures Dinky Toy. Et il avait son jeu de construction Pierre Magique. Et etc, alors, etc. Alors, et donc, en fait, tout le chapitre est comme ça.
Voilà, et je vais vous prendre un petit passage, parce que bon, on peut préciser que Théo Jarrier, qui est notre deuxième invité, bonjour Théo Jarrier, est déjà avec nous, on le remercie, et on parlera tout à l'heure donc d'un disquaire, et oui, cette matinée est complètement subversive. Mais justement, il y a ce petit passage qui est en deux lignes, où il est dit « Ils écoutaient des disques sur un électrophone Tepaz Oscar, ouais, et la radio sur un transistor Schneider. Ouais. » Alors voilà, bon, pour le livre de Michel Audin, je crois que vous vouliez nous dire Léo Mallet.
Léo Mallet quand même, parce que ça c'est truculent. Michel Audin prend exactement le style des Nestor Burma de Mallet et elle nous fait un chapitre où Nestor Burma va se retrouver pris dans une des charges policières en 62, se prendre un coup sur la tête évidemment, mais c'est vraiment dans le style. Et c'est ça, avec le côté argotique qu'on retrouve chez O'Malley. Et là, elle l'a complètement intégré. Et ça, c'est drôle comme tout. Hein. Là, ça vaut vraiment le coup. Et donc, on va se retrouver, après ça, à la place de la Nation. Et je vous lis quand même la fin, parce qu'elle vaut le coup. Et je lis une rue, une plaque de rue bleue, place de la Nation, fête nationale du 14 juillet 1880. Ce qui n'est pas très clair, mais me fait penser à notre ami Lyon, qui avait raté cette toute première fête nationale. Et voici le boulevard Voltaire et son numéro 283, et il me reste à le redescendre. Et en fait, dans tout ce dernier chapitre, tous les personnages qu'on a rencontrés à travers le temps, dans tous les chapitres, vont se retrouver, y compris le lion, la fontaine. Et donc, ce dernier chapitre remélange, en fait, tous ces personnages, et c'est un chapitre de conclusion synthétique qui est très amusant, parce qu'effectivement, on a le premier Georges, qui était donc en 1862, on se retrouve avec le Bataclan et les attentats, on a aussi la période 20e siècle, et elle a réussi à nous remettre ensemble tous ces personnages, et en fait le lion c'est quoi? C'est la répression policière.
Bon, je crois que c'est un très beau mot pour finir sur l'évocation du livre. Hein. Alors je dis ça parce que je regarde l'heure. Alors on peut préciser que dans ce livre, il y a une deuxième partie qui s'appelle Pont et qui est consacrée, donc qui sont des poèmes
voilà.
Sur l'ensemble des ponts de Paris. Nouvel exercice oulipien, hein, avec à la manière de plein de fois.
Exactement, puisque là, elle a fait 34 poèmes, et c'est parce que ce ne sont pas que les ponts, c'est aussi les passerelles. Alors vous avez par exemple des acrostiches. Vous avez à chaque fois un style différent, et je vais quand même vous en lire un pour vous donner envie. C'est celui qui est sur la passerelle Léopold Sédar Senghor. C'est un tout petit texte, hein, donc. Votre passerelle, Léopold Sédar Senghor, votre passerelle d'Azobé, poète, remplace le pont effondré en métal, en marbre, commémorant Napoléon, pas son tonton, le grand, et ses campagnes. Je préfère cette passerelle dorée en planche d'Azobé, la vôtre, Léopold Sédar Senghor.
Ben, alors, merci beaucoup Alain Brossard pour cette
merci de m'avoir invité.
Découverte approfondie du livre de Michel Audin, dont je rappelle le titre, Paris, boulevard Voltaire, suivi de Pont, hein, et donc c'est chez Gallimard dans la collection L'Arbalète. Alors, bah, rapidement, alors là c'est vous nous avez amené plein de livres en disant bon, on va pas faire que des Français, j'ai aussi des Japonais. Il y a en littérature contemporaine japonaise.
Exactement. Là, il y a toute une génération de jeunes écrivaines, de femmes écrivaines japonaises qui est en train de monter. C'est une littérature qui est beaucoup plus fine, qui va à l'encontre, en fait, de la traditionnelle littérature masculine à la Kawabata, certes excellente, prix Nobel de littérature, mais qui est centrée sur le mâle, sur l'homme. Là, c'est une littérature beaucoup plus féminine. Alors là, je vais vous les citer comme ça, mais
voilà.
On n'a pas le temps. Il y a par exemple Shion Mura pour La Grande Traversée. Vous avez Aki Shimazaki, qui fait en fait des trilogies ou des pentalogies. Donc à chaque fois, c'est plusieurs livres. Ça, c'est magnifique, c'est poétique. Il y a Nirei, il y a Suzuran, c'est hyper poétique. Il y a aussi Hiro Arikawa au prochain arrêt, celle qui avait fait Mémoire d'un chat, qui avait eu un énorme succès. Et tout ça, c'est édité chez Babel, donc en format de poche.
Voilà.
C'est facile. Et puis.
Et puis alors, deux derniers...
Deux petits derniers...
Là, vous allez avoir plein de conseils pour l'hiver. Jusqu'à l'hiver, peut-être.
Le bouquin de Philippe K. Dick, l'immense écrivain de science-fiction américain, qui avait écrit Ubik, eh bien, on a une nouvelle traduction. Et cette nouvelle traduction, franchement, elle vaut le coup par rapport à l'ancienne. Alors, Ubik, moi, c'est un livre qui m'a complètement bouleversé. La première fois où je l'ai lu, en fermant le livre, je ne savais plus si j'étais dans la réalité ou ailleurs. Il m'a complètement déstabilisé le cerveau. Et c'est géant.
Et alors, qui est cette nouvelle traduction? Parce que comme
alors,
vous nous
là,
dites qu'elle est effectivement géniale.
Très bonne. C'est une...
Parlons un peu des traducteurs, souvent oubliés.
Voilà. C'est Hélène Colomb, c'est une Française, donc, et c'est traduit du texte original américain, évidemment. Hélène Colomb, elle est à suivre, en
d'accord.
tant que traductrice. Et puis, allez, je vais vous en faire un petit dernier, quand même.
Allez, un petit dernier. Donc, pendant que vous nous préparez le petit dernier, je rappelle, hein, donc, que c'est le livre de Philippe K. Dick, Ubik, dont cette nouvelle traduction est éditée chez J'ai lu.
Voilà, donc pareil, hein, format de poche. Alors moi j'ai été j'ai été ravi en fait que Le Point Seuil réédite un ouvrage qui était paru en 1993 et qui était épuisé depuis, qui s'appelle Anam de Christophe Bataille, écrivain français. Et c'est vraiment un très court roman, ça relate l'épopée de deux navires partis de La Rochelle parti évangéliser le Vietnam, c'est-à-dire la Nam, en 1787, c'est-à-dire 2 ans avant la Révolution française. Et évidemment, la Révolution française arrive et l'expédition plonge dans l'oubli. La France ne sait plus qu'effectivement elle a envoyé des missionnaires, des soldats en Annam. Et en fait, tout ce roman va être centré sur comment ces gens de dogme religieux vont, grâce justement à être, en étant plongés dans la nature, sans avoir de société à côté d'elle, comment ils vont pouvoir retrouver l'état de nature, l'état et l'amour surtout. Donc comment des gens de dogme peuvent revenir à l'état naturel, ce qui serait pas mal quand même.
Bon, ben, merci pour tous ces conseils. Ne me reste plus qu'à, à la limite, à envoyer les auditeurs de Radio Liberté et les auditrices à Thiers, hein, à la place du marché, hein, on le rappelle.
Ça donne envie.
Voilà. Vous nous donnez envie. Alors, je vais juste donner un petit contact. Comme ça, on peut vous envoyer des mails. Hein. Donc, l'adresse mail, c'est librairie.brossard.94@hotmail.fr.
Voilà, bah, écoutez, je serais ravi de venir, que vous veniez discuter avec moi. On n'est pas obligé de venir acheter, d'ailleurs. On peut simplement discuter de littérature et de plaisir.
Bon, bah, Alain Brossard, merci beaucoup. On va continuer cette émission au fil de l'eau, en changeant de magasin. Mais on est très content comme ça, aujourd'hui, de faire une émission un petit peu hors norme, puisqu'on est généralement dans notre débat critique sur les sorties salles cinéma. Ben aujourd'hui, on change un peu de parcours.
Merci.
De la première pulsation.
Au meurtre des ordinateurs !
Émettre la survie, c'est qu'un renoncement !
Nous sommes des esclaves.
Enchaîne l'espoir aux machines !
Les masques ont peur du soleil.
Les maîtres armes parlent du monde.
Car les murailles se lézardent.
Les saxophones du peuple.
Un vestige.
Les derniers remparts.
Barrage,
Valérie,
Patrie.
Sans l'argent.
Marchandises comme les vestes spatiales du musée.
We'll be right back.
atomes impales, on a sale de nos bouchers, les fleurs se rident et le vin se fait noir, la grande fête est pour demain.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, longtemps je me suis couché de bonheur, Francis Gavel au micro. Continuant à déambuler d'un commerce non essentiel à un autre, quittons maintenant les rayonnages et les tables de nouveautés d'une librairie thiésienne et dirigeons nos pas vers la parisienne capitale pour nous arrêter à quelques encablures du Père Lachaise. Là, dans une rue à l'écart d'une artère animée, se révèle Souffle Continu, un magasin de disques à la réputation mythique. Je dis cela sans flagornerie aucune, et me souviens très bien que lors de ma première visite à la boutique, c'est franchement intimidé, ainsi j'égrenais un inaudible bonjour, et sur la pointe des pieds que je franchis le seuil de la porte. Magasin spacieux, aéré, rangé et ouvert en 2008 par deux compères, deux complices, deux compagnons, Bernard Duqueyron et Théo Jarier, Souffle Continu n'est pas un de ces hauts lieux de la consommation culturelle à marche médiatique forcée, mais se présente bien au contraire comme un cabinet de curiosité où l'on entre sans idée préconçue d'achat et où, se laissant porter d'un bac de vinyle à un autre, on repère d'élégantes pépites. Car ici, tel un catalogue raisonné d'exposition, chaque disque semble choisi avec acuité et en revendiquant une forte subjectivité éditoriale. Ce qui assoit de fait la réputation mythique de la boutique et accroît, à mon instar, la timidité première de celle ou celui qui s'y aventure. Théo Jarier, donc rebonjour.
Rebonjour.
Alors première question, évidemment, là je dis Souffle Continu depuis tout à l'heure, c'est quand même un nom qui paraît mystérieux la première fois qu'on l'entend. Et alors d'où il vient, qu'est-ce qui représente ce nom?
Alors, l'histoire de ce nom trouvé, c'est Bernard Duqueyron qui a trouvé ce titre et qui m'en a fait part assez rapidement, je pense même avant l'ouverture de la boutique, et c'est venu comme une évidence. C'est-à-dire qu'on était employé chez un soldeur parisien, Jussieu Musique, pendant des années. On était, à un moment donné, on était 14 à travailler dans cinq boutiques qui étaient en face de la fac de Jussieu, rue Linné. Et quand les boutiques ont fermé, nous on avait déjà le projet de repartir sur une ouverture en pleine crise du disque. Voilà. Et là, effectivement, il nous fallait du souffle et il fallait surtout rebondir et trouver cette énergie au fond de nous pour ouvrir une suite mais différente, parce qu'on voulait on voulait un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de partage, et sortir aussi des supports, du plastique. On voulait faire des événements, etc. Ce qu'on a mis en place au fur et à mesure des années. Et donc Souffle Continu, c'était une réinjection de souffle, de respiration dans l'histoire, quoi.
D'accord.
Et en même temps, c'est une technique.
Voilà, il y a ça aussi.
Voilà, donc ça fait aussi référence, c'est une double référence. Ça fait référence à la technique de respiration dans le souffle du ventre pour jouer du saxophone et de la respiration, donc en continu.
Voilà, et donc effectivement, on se dit aussi, quand on connaît après plus en détail vos rayons, le choix des disques qu'il y a chez vous, on se dit que ça correspond beaucoup, parce qu'on dit que ce souffle continu, c'est une technique qui est beaucoup employée dans le jazz, les musiques improvisées, certaines musiques contemporaines, voire aussi traditionnelles.
Même ethniques.
Voilà, donc effectivement, d'un seul coup, ça paraît une évidence absolue, quoi. Alors justement,
et puis c'est poétique aussi.
Voilà.
Il y avait aussi ce troisième
élément.
Troisième élément.
Alors donc vous nous expliquez, effectivement, c'était un peu ma question suivante, cette présence, donc cette rencontre chez Jussieu Musique, cette nécessité finalement de partir, puisque il y a des amiantages de la fac, et donc plus d'étudiants,
voilà,
et donc
ouais. On a subi ça de plein fouet.
Plus de clients aussi.
Plus de clients, ouais. Des déplacements.
Et alors, donc du coup, bah, vous nous expliquez effectivement, mais ce désir d'un seul coup, en dehors du fait de sortir du plastique, il vient de quoi ? Parce qu'en plus, vous voulez vous inscrire à ce moment-là dans une offre qui est principalement axée autour du vinyle.
Alors, pas vraiment au début.
D'accord.
Pas complètement au début. Je pense que quand on a ouvert, on avait 80% des références étaient sur support CD. Et ça a pivoté au fur et à mesure des années. Après, on n'était pas vraiment attaché au support particulier. Alors que nous-mêmes, on écoutait du CD, du vinyle. On est de cette génération un peu bâtarde où l'importance des vinyles de nos parents qu'on regardait enfants, qui nous ont nourris, et puis l'arrivée du CD qui nous a fait un bien fou aussi, et puis ce mélange de supports, on voulait aussi des objets un peu bâtards, du DVD, du livre, des choses un peu hybrides aussi. Donc le problème du support ne s'est pas posé comme un problème en fait. Et puis ben on a été rattrapé un peu par la force des choses et du commerce et à un moment donné le CD a commencé à être galvaudé, à devenir un peu un produit moins intéressant, rempli à bloc avec des tas de bonus qui intéressaient personne, où l'histoire disparaissait, où les labels faisaient plus l'effort de raconter une histoire, plus de livrets, etc. Donc l'objet il a changé il s'est un peu oui c'est ça, c'est un objet qui a disparu de sa force, qui a été un peu vidé de son sens à un moment donné. Et après il y a toujours des labels qui se sont battus pour faire des beaux objets, raconter des histoires avec des gros livrets conséquents, avec des artistes pour faire des pochettes, etc., avec un soin apporté, avec un fil rouge, avec une direction artistique derrière. Parce que ça aussi le problème, c'est que dans les labels il y a aussi avec le CD, beaucoup de labels où il n'y avait pas de directeur artistique, c'est-à-dire que les musiciens faisaient eux-mêmes les pressages de leurs disques et il n'y avait personne pour indiquer des choix, parce qu'un disque c'est quand même quelque chose de particulier, c'est pas un concert, surtout dans le jazz et les musiques improvisées. À un moment donné on avait tendance à faire des disques, à sortir des disques de concert qui était mal pensé, mal monté, où il n'y avait pas de réflexion derrière, et ça menait une clientèle à arrêter de suivre parce qu'il y a une surproduction à un moment donné et les objets étaient pas intéressants, la musique valait mieux l'entendre live, aller l'écouter sur scène que d'écouter des disques qui étaient juste des traces, quoi. Et un disque ne doit pas être qu'une trace, doit être une trace mais pas seulement.
Et alors, donc justement, qu'est-ce qui vous remène à ce moment-là vers le vinyle ? Vous sentiez, par exemple, qu'il y avait un désir du public, de vos clients, d'être plus sur, de revenir à cet objet qu'on avait à un moment, là aussi, complètement laissé tomber ?
Ouais, pour retrouver de la chaleur, pour retrouver une dynamique particulière. Et puis le vinyle, à un moment donné, il faut retourner la face, et donc ça nous amène à une attention différente de la musique, c'est-à-dire qu'un CD il peut tourner en boucle, il peut durer, il y a des CD qui durent longtemps, parce qu'il y a des tas de bonus et tout, on est sorti de l'album pensé, de l'album studio, de l'album qui a été et le vinyle nous ramène à un temps. Mmh. Un temps précis, en deux temps finalement, puisqu'il y a un rappel au milieu du disque qui nous oblige à retourner la face, donc nous amène une attention particulière.
Et alors justement, vous commencez donc disquaire, et puis en 2014 vous décidez de créer un label. Mmh. Alors bah justement cette nouvelle impulsion, elle vient de quoi, et j'ai envie de dire aussi bien sur un plan éditorial que commercial?
Alors c'est le label, il arrive à un moment donné où on a des producteurs, des musiciens qui tournent autour du magasin et puis qui nous mettent un peu le pied à l'étrier. On a un camarade de Radio Libertaire qui s'appelle Gérard Terrones, qui a été un personnage important pour nous puisqu'il habitait à côté de la boutique. Et il venait donner tous ses rendez-vous étaient avec ses graphistes, avec les photographes, avec les musiciens. donnait à la boutique. Et on le voyait très très régulièrement. Et à un moment donné, on lui a dit « Mais Gérard, il faudrait rééditer les 10 de ton label. Ton label est tellement mythique et tellement important. Futura, Marge, c'est quand même quelque chose de très très important, Futura surtout. » Et il nous a dit « Futura, c'est le futur. Moi, je suis dans le... Je veux pas aller dans le passé. Le futur, c'est le vinyle, c'est le CD. Et le vinyle, je n'y retournerai pas. C'est du passé pour moi, etc. » Et on l'emmerdait beaucoup avec ça. Et à un moment donné, il nous a dit « Vous me faites chier, faites-le !» Voilà, et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Et puis on avait aussi Richard Pinas qui était venu faire un événement à la boutique et qui avait des 45 tours, notamment un 45 tours de soutien à la RAF. Et il les vendait assez cher, ces disques-là. On lui dit « Mais pourquoi ? Bah, j'ai que quelques copies, etc. Mais ça serait... Mais si vous le rééditez, c'est des objets qui pourraient intéresser des gens à un prix raisonnable. » Et voilà, donc on est rentré dans cette problématique de, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Ben, c'est de monter notre structure label, et c'était facile, parce qu'on avait déjà le magasin, et on n'a pas remonté un label, c'est-à-dire que le label est lié à la boutique Souffle Continu.
Et pour vous, c'était un nouveau métier, du coup, parce que...
Ben, moi, je le faisais déjà un peu avant avec Didier Petit, puisque je participais à l'aventure In Situ, d'un label In Situ. Donc, je connaissais un peu quelques rouages de fonctionnement, et voilà. Donc, j'avais déjà un peu cette expérience-là, petite expérience. Et puis, de toute façon, on finit jamais d'apprendre quand on a un label, parce qu'à chaque réédition, à chaque fois qu'on travaille avec des musiciens, c'est différent. Donc, les contrats sont différents, les situations sont différentes, tout est absolument différent à chaque fois, et on apprend à chaque disque de nouvelles choses.
Alors on va découvrir justement un petit morceau du catalogue, puisque aujourd'hui je crois qu'il y a aux alentours de 70 références.
Ouais, on est à 80.
80, donc voilà. Donc nous on va en découvrir bien moins, mais c'est un choix que vous avez fait justement, un catalogue très raisonné. J'en doute pas un instant. Mais alors pourquoi ce choix de cette scène underground française des années 70-80?
Ben je pense qu'il y avait un manque. Il y avait un trou à ce niveau-là. C'est-à-dire que la musique américaine, la musique anglaise, tous les catalogues ont été réédités en long, en large, en travers. Effectivement, il y a beaucoup de choses, mais il y a moins de surprises parce que tout avait été ratissé. Et je pense qu'à un moment donné, on avait besoin de retrouver des choses du passé. Et en France, le travail n'était pas fait, quoi. Je pense que ça s'est arrêté au yéyé, et puis après, on est passé au rock alternatif. Et il y a un moment où il y a un trou dans l'histoire de la musique française underground. Alors il y a bien le livre de Dominique Grimaud sur l'underground français, etc. Il y a des choses, mais il y a peu de disques trouvables, ou alors à des prix exorbitants, et il y a un passage à vide à un moment donné. Et pourtant, en France, ça a été un moment important dans l'expérimentation dans les années 70, entre le rock et le jazz, et le rock notamment, parce que les Anglais avaient tellement la main mise sur le rock, hein. John Lennon disait le rock français, c'est comme le vin anglais, quoi. Donc c'est pas bon, c'est vraiment merdique. Et justement, en France, on savait pas du tout faire du rock. L'emprise de la variété était quand même primordiale, et les ingénieurs du son de l'époque enregistraient un groupe de rock avec toujours la voix mixée en avant. Voilà, et les groupes comme Alp avec Catherine Ribeiro, c'est un groupe fantastique, mais on dit toujours Catherine Ribeiro, on dit pas Alp, alors que c'est Alp et Catherine Ribeiro. Ou l'inverse, peu importe, mais Alp a été mixé comme un groupe de variété qui accompagnait Catherine Ribeiro. Et donc je pense qu'en France on a vraiment pâti de ça. Et donc les groupes français dans l'underground sont des groupes hybrides, comme on a entendu là Majoun, où il y a eu plein de, ou Red Noise, ou Barricade, ou tous ces groupes là se sont mis à faire des choses qui sortaient du rock finalement, qui était entre folk, entre jazz, entre free, entre improvisation, entre psyché, entre voilà un mélange des genres, parfois chanté en français, parfois chanté en anglais, peu importe, parfois pas chanté, des groupes instrumentaux, etc., qui étaient dans un travail de recherche. Et je pense que c'est ça la marque française, elle se situe là. Dans l'hybridation. Et donc on a voulu archiver ça, cette période et ces musiques. C'est pour ça qu'on n'est pas resté sur un genre musical. Ça se situe entre la musique progressive, le folk, le jazz, le free jazz, l'improvisation, etc. Voilà. La richesse de la musique française underground de cette époque-là.
Alors, on va commencer ce voyage. Alors, effectivement, vous venez d'en parler un petit peu, donc on va en reparler quand même peut-être une minute. Pour démarrer, donc votre playlist, elle s'ouvre avec "Vivre la mort du vieux monde", donc du groupe Majnoun. Alors moi j'ai été frappé puisqu'on vient de parler avant d'une plage du village pleine de douceur de vivre et vous arrivez avec un enchaînement providentiel et un brin provocateur. Je me suis dit puisque la chanson Ouba elle s'ouvre sur ces mots, la place du marché sentait la mort. Donc je me suis dit là on fait un prolongement qui va être radicalement contraire mais intéressant quoi. Et alors justement Majnoun, c'est quoi? Vous avez édité deux albums?
Alors on a édité les deux albums de chez Sarava. Alors, on les a réédités en 2016. C'était Sarava, le label de Pierre Barou. Pierre Barou, comme Gérard Théronès, c'est le patrimoine de ces musiques-là en France. Et Majnoun, c'est cinq musiciens, Jean-Pierre Arnoux, Cyril et Jean-Louis Lefebvre, Alain Roux et Roger Scalia. Et voilà, ils sont dans une espèce de guérilla poético-électrique qui mélange folk et blues et musique progressive. Il y a du Zappa, il y a du Jacques Higelin, il y a du Sonny Sharrock, il y a de l'Art Ensemble de Chicago, il y a tout ça mélangé, quoi. Il y a une espèce de gros magma des influences de l'époque, quoi, qu'elles soient américaines, anglaises.
Ou même plus large, parce que là, en fait, Vivre la mort du vieux monde, c'est le premier album, c'est ça? Oui. En termes de chronologie.
On a réédité les deux suivants chez Sarava, et on est revenu celui qu'on a écouté là, c'est le premier.
Voilà, et je disais ça puisque vous parliez des influences qui peuvent être anglaises, et il y a même dans un autre album donc, que vous avez réédité, mais dont j'ai oublié le titre, il y a deux morceaux avec un des plus grands percussionnistes du monde, à mon sens, donc un Brésilien, qui est Nana Vasconcelos. Et donc, voilà, c'est aussi comme ça une hybridation territoriale.
Il faut dire qu'il y avait aussi, la France a accueilli dans les années 70 beaucoup de musiciens, notamment afro-américains. Ils sont arrivés en Europe, pas uniquement en France, mais beaucoup se sont basés ici en France. Et Nana Vasconcelos a traîné beaucoup ici avec Don Cherry, avec Archie Shepp, avec plein de musiciens qui se sont installés à l'époque. Ou l'Art Ensemble de Chicago qui traînait là à cette époque-là aussi. Donc il y avait aussi le mélange entre les musiciens français qui étaient là, qui avaient une culture de jazz, mais pas que, et puis ces musiciens afro-américains qui traînaient là. Il y a aussi un rapport politique aussi à une situation aussi où les afro-américains à un moment donné dans cette en avaient marre de vivre aux États-Unis. Et les problèmes de racisme étaient tellement importants qu'ils venaient en Europe, quoi.
Et puis pour le Brésil, il y avait aussi la dictature.
Il y avait aussi la dictature au Brésil.
Alors on va tout de suite découvrir du coup un autre de vos choix. Donc je vous laisse nous le présenter, puisque l'idée, ça va être évidemment avant d'écouter chacun des albums que vous nous présentez, de savoir aussi pourquoi vous l'avez choisi, comment vous avez découvert l'enregistrement peut-être.
Alors on a c'est François Jeannot.
Tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait.
Et François Jeannot, c'est quand même c'est un des piliers du jazz français des années 60. Il a enregistré avec Georges Arvanitas. Tout le monde a voulu à un moment François Jeannot, Laetitia Sherif, Manu Dibango, Béa Telieski. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a traversé son époque et traversé les musiques. Et ce premier disque, qu'on a réédité, c'est son premier disque en tant que leader, qui est sorti sur le label Palm de Jeff Gilson en 75, quelques mois après le Watch de Vilgo de Jacques Tolo. avec un peu le même casting, Jeannot au saxophone, Jean-François Génie-Clark à la contrebasse. Et aux percussions, batterie, ce n'est pas Tolo, mais c'est Luba qui le remplace à cette époque-là. Et Michel Graillet, qui appelait en renfort au son de synthé, qui venait à l'époque de Magma. Voilà, qui traînait autour de Magma à cette époque-là. Donc, c'est un disque pareil aussi, qui mélange l'avant-garde, le jazz, les musiques progressives, le swing, ça traverse plein de choses, quoi.
Et alors, le morceau qu'on est, donc l'album s'appelait Une bien curieuse planète.
Ouais, Une bien curieuse planète.
Et le morceau qu'on écoute, donc, c'est Theme for an Unknown Island.
Ouais,
c'est
tout à fait.
Eh ben, on l'écoute tout de suite. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Vous êtes toujours à l'écoute de Longtemps, je me suis couché de bonheur. Francis Gavel au micro, en compagnie donc de Théo Jarier, de la boutique et du label Souffle Continue.
Et ça revient souvent. Ça.
Ah, bon, bah, alors je suis rassuré.
À bout de souffle aussi. On a été présenté une fois le disquaire à bout de souffle.
Bon, d'accord. Bon.
Mais qui est une belle vision du.
Oui, en même temps, par
du marché du disque.
Oui, alors moi je pensais au film. Je pensais au film de Godard où on peut dire qu'il y a comme ça ce côté iconoclaste, ce côté aller dans plein de directions, mélanger des genres.
Ouais, ouais.
Aussi, quoi.
Ça peut avoir plusieurs sens.
Voilà. Alors, je vais juste faire une petite chose que j'ai pas encore faite. C'est donner l'adresse du magasin. Il est donc au 2022 rue Gerbier, dans le 11e. Et bon, là, ce matin, il va être ouvert un tout petit peu plus tard, hein, parce que généralement, vous êtes ouvert à partir de 11h jusqu'à 19h et le samedi jusqu'à 20h. Mais donc, les auditeurs qui voudraient ensuite se précipiter chez vous vont pouvoir le faire. Après avoir découvert donc un autre album, tout de suite on va enchaîner, avec donc un album de Jacques Tolo qui s'appelle Watch Devil Go. Alors Jacques Tolo, c'est qui ?
Jacques Tolo, c'est un enfant prodigue qui joue à l'âge de 12, 13, 14 ans avec les pontes du jazz américain qui accompagne Eric Dolphy à Paris. Enfin voilà, son père vient le chercher à l'école, il a son cartable, il fait les devoirs au chat qui pêche et puis après il y a c'est complètement dingue. C'est une situation voilà. Et, donc c'est un batteur incroyable qui accompagne tous les grands noms du jazz afro-américain qui débarquent à Paris dans les années 60. Et puis qui de fil en aiguille se met à composer, à jouer des claviers, il sort de l'instrument, de la batterie pour faire sa musique quoi, qui est une musique vraiment très particulière, assez habitée avec des références à la musique contemporaine, à Debussy, il est vraiment ancré dans une tradition et il va vers autre chose, quoi.
Et alors justement, le morceau qu'on va écouter, Watch Devil Go, ouais. Puisque vous parliez d'habiter, c'est un morceau qui est chanté.
Qui est chanté, qui est le seul morceau chanté du disque, qui est un morceau très très étonnant dans sa discographie. C'est une chanson, quoi. Et Madlib, d'ailleurs, pour les fans de hip-hop, Madlib a samplé ce morceau.
D'accord. Et on peut préciser, effectivement, donc on va l'écouter, que la chanteuse, en fait, c'est Charlene Scott. Mmh. Moi, j'avoue que je la découvre, je ne savais pas...
Oui, elle n'est pas très connue, elle n'a pas fait une grande carrière.
Mais sur ce morceau, effectivement, ouais. On peut dire que elle a une présence très...
Il se passe quelque chose.
Et on va tout de suite, nous, on va se taire, on va laisser, chers auditeurs, ouais. Le découvrir.
Watch devil go in the head. Watch devil go in the heaven. Keep time alive from your mother-in-law. Watch devil go in the heaven. Keep time alive from your mother-in-law. Break heart, love you too. So
you're the one I thought to.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonheur. Francis Gavel au micro en compagnie de Théo Jarier, et évidemment, on continuait à parler hors antenne. Donc on continue comme ça ce voyage. Alors, justement, l'album d'après, alors c'est un album de Philippe Maté, Jeff Gilson, et j'ai un petit peu envie d'attirer l'attention sur Jeff Gilson, hein, qui est un touche-à-tout de talent qui s'accomplit aussi bien vers un jazz chatoyant et swing avec les double six, que avec des choses beaucoup plus expérimentales, et puis aussi en travaillant avec des jeunes musiciens malgaches. J'ai l'impression que c'est comme ça une pierre angulaire du catalogue.
Oui, parce que c'est quelqu'un de très important dans l'histoire du jazz en France. C'est quelqu'un qui vient vraiment d'un jazz un peu classique, qui vient du swing, et qui à un moment donné a envie d'expérience et va tenter des choses. Et c'est quelqu'un qui est un peu bricoleur. Il est ingénieur du son aussi, mais il a pas cette formation d'ingénieur du son. Alors il fait des expériences, il enregistre des musiciens, et puis après il colle les musiciens qui ne jouent pas ensemble sur des sessions pour voir ce que ça donne. Voilà, il est dans l'expérience. Et puis comme il est très doué, il aime les rencontres, et comme ça, de fil en aiguille, il va tenter des choses, et pas toujours réussi d'ailleurs. Il y a des choses qui marchent pas, et il y a des choses qui sont étonnantes. Et en 68, pendant mai 68, il prend le dernier avion sur l'aéroport d'Orly, et il part à Madagascar pour faire animer une masterclass et faire un concert. Et ben, il pourra pas rentrer sur le territoire français puisque les avions ne décollent plus. Et donc il prend le dernier avion, il reste là-bas, et il trouve des musiciens fantastiques à Madagascar avec qui il va travailler, il va prendre le temps de travailler, et il va y avoir des enregistrements. Les Malgaches vont venir à Paris après. Certains aujourd'hui ont une carrière, sont devenus connus par la suite, etc. Donc, c'est l'aventure.
Oui, c'est l'aventure. Et puis, parce que dans ma présentation, je suis passé un peu vite, mais il y a quand même quelque chose. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, je l'avoue, avec, mais qui est une expérience alors de musique bruitiste et en même temps impertinente. C'est le Massacre du Printemps d'après Stravinsky, que vous avez aussi réédité. C'est un album étonnant quand même.
C'est un album étonnant. Qui demande une écoute particulière. Je l'ai pas choisi là parce qu'il faudrait l'écouter en entier. Et puis c'est un disque pas facile à aborder, mais c'est comme tu dis, c'est une pierre angulaire.
Alors justement, donc l'album dont on va parler, c'est l'album de Philippe Maté, Jeff Gilson. Alors, petite présentation de l'album.
Ça fait partie des rencontres que Gilson avait. Et là, il rencontre un jeune saxophoniste surdoué qui s'appelle Philippe Maté, qui est décédé depuis. Et ils vont, qui est un saxophoniste aussi, qui est un peu bricoleur, qui est un peu touche à tout. Et ils vont faire ce disque avec un titre sur une face et un autre sur une autre face. Donc une longue improvisation de 22 minutes chacune. Voilà, donc ça fait partie des moments les plus intenses du jazz français de l'époque, je pense.
Voilà, alors donc on va écouter en fait le premier morceau qui s'appelle L'œil. Et par rapport à ce que vous disiez, justement, on va écouter, j'ai envie de dire presque la première partie, puisqu'on va écouter les trois premières minutes.
Ouais, c'est ça, un extrait.
Voilà, et qui est... Alors, vous me direz... Ouais, je le vois comme la partie la plus mélodique.
Ouais, c'est la mise en route d'une longue improvisation, et faut se jeter dans le vide.
Voilà, et donc nous, on va pas vous jeter dans le vide, chers auditeurs, chères auditrices, on va juste vous préparer. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. On continue notre promenade donc tout au long de cette playlist Souffle Continu concoctée par Théo Jarier. Donc là, on a écouté, bah voilà, le début de ce morceau donc de Philippe Maté et Jeff Gilson. Maintenant, on va changer radicalement d'ambiance et finalement pour s'intéresser peut-être à alors un Français à New York, ainsi, qui est Alain Belaïch.
Alain Belaïch, ouais. Qui est venu ici en interview sur Libertaire.
D'accord, bah je l'ignorais.
Et au milieu des années 70, c'est Alain Belaïch, c'est le Français qui décide de partir à New York. Il part deux fois à New York. Et puis, il enregistre pour le label de David Giffen, quoi, quand même. Mm-hmm. Et à l'époque, je pense qu'en France, eh ben, y a pas cette, y a cette volonté, mais il n'y a pas le passage à l'acte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Belaïch décide d'aller enregistrer dans un super studio. C'est-à-dire, alors, il parle très bien anglais, ça aide aussi, et puis se jette à l'eau, quoi. Il se dit à un moment donné, moi, j'ai envie d'autre jeu. J'ai pas envie de me cantonner à des studios en France, en dehors du château d'Hérouville. Enfin, il y a quand même des
studios mythiques aussi.
Ouais, il y a des studios à Paris, il faut pas non plus exagérer. Il y a des très bons ingénieurs du son. Il y a des très beaux studios, il y a quand même beaucoup d'expérience, surtout à cette époque-là, en 70, on n'est plus dans les années 60, là, on est vraiment dans les années 70. Donc voilà, mais il fait le pas, et puis il part aux États-Unis, il part à New York, il enregistre c'est étonnant d'ailleurs, ce qu'il part à New York pour enregistrer une musique qui sonne plutôt californienne, quoi.
Ah, mais à fond.
Voilà.
Et puis, Geffen, il y aura un parcours californien, quand même, ouais, puisque là, on parle de David Geffen. Mais quand même, David Geffen, c'est lui qui lance des gens cultes, je dirais, de la musique West Coast, hein, entre les Eagles et Jackson Brown. On est
Donc, voilà. Et puis, nous, on écoute ça. Et puis, moi, j'entends, je suis un grand, grand fan de David Crosby. Et j'entends, et le deuxième ou troisième morceau, j'entends David Crosby dans sa musique. Donc, je fais un bond. Et puis, j'essaye d'écouter davantage. Et je me rends compte qu'il est entre Crosby, Still Nash and Young, et Weather Report, et Herbie Hancock, et Mahavishnu, et John McLaughlin. Bon, il est à la fois dans le jazz, dans la fusion et le rock planant, californien. Et tout ça enregistré à New York. Donc ça nous alerte. Et là, il faudrait écouter Siffle récent, parce que c'est le morceau titre du disque, qui est une sorte de folk, funk, complètement planant.
Bon, bah, on va l'écouter tout de suite. Alors, on va tout de suite changer d'ambiance. Là, on part alors sur moi, ce qui a été un album mythique, j'attendais que vous le re-rééditiez. Alors, je vais faire une accroche nulle, mais je peux pas m'en empêcher. C'est-à-dire que dans la tendance folk song, on connaît bien une maison bleue, mais il serait peut-être temps de découvrir ou redécouvrir une maison rose.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, de qui s'agit-il ?
D'Emmanuelle Parrainin. Ça a été une grande rencontre avec, avec elle. Un disque est réédité, donc Maison Rose, au Canada. Et on décide de faire des recherches pour la retrouver. On la retrouve et on se rend compte qu'elle habite pas très loin de la boutique. Et on l'appelle et on lui dit, voilà, Emmanuel, on voudrait t'inviter pour la sortie du disque Maison Rose, qui vient d'être édité. Elle dit, ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça commence comme ça. Donc elle joue le jeu, elle vient à la boutique. Elle fait un showcase pour présenter le disque et puis elle nous dit après, voilà, je suis pas du tout au courant, je porte pas du tout cette sortie, où c'est que vous avez trouvé ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ça. Donc on lui explique la situation et puis elle nous dit, mais en plus ils sont pas repartis des bandes, moi j'ai les bandes chez moi, etc. Puis comme on a une très très bonne accroche avec elle, elle nous dit, mais j'ai envie de faire le travail avec vous, je vous apporte les bandes et tout, et on commence une histoire ensemble. Et là, on a une vraie histoire qui s'impose avec elle, et on va aller, même après avoir édité Maison Rose à partir des bandes d'origine, faire un travail avec elle d'archivage, où on va récupérer des morceaux de titres, de bouts de cassettes, de trucs, et on va monter un disque de ses musiques de spectacle. De chorégraphie, un peu plus tardif que Maison Rose, un peu après. Et voilà, on va éditer un disque qui n'est jamais sorti à l'époque, qui s'appelle Perlandra, qu'on a monté ensemble.
Et qu'on a passé dans cette émission, effectivement.
Voilà. Donc c'est une vraie belle histoire avec Emmanuelle. Et puis on continue le travail avec elle. Et c'est vrai que le fait d'avoir réédité ce disque culte Maison Rose, comme elle continue de faire des concerts, etc., elle a renoué avec son public, mais en même temps un nouveau public de jeunes qui la découvrent, et nous on est stupéfaits parce que le disque se vend très bien, ça marche bien, elle se remet à faire beaucoup de concerts, et c'est une vraie histoire réussie, quoi.
Moi je me rappelle que j'avais découvert Emmanuelle Parrainin, alors en tant que harpiste, en tant que musicienne de studio, sur cette fabuleuse anthologie de la chanson traditionnelle populaire chez EPM, qui avait été montée par Gabriel Yacoub, Marc Robin, Emmanuelle Parrainin, et c'est comme ça que j'étais arrivé à elle. Et jusqu'à un moment de me rendre compte comme ça qu'on trouvait encore le vinyle, on le trouvait alors de chez vous avant cette nouvelle réédition, on le trouvait encore à la médiathèque musicale de Paris. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, et qu'après effectivement je commençais un petit peu à vous dire en venant au magasin, mais au fait c'est quand que vous le rééditez ce disque fabuleux.
Il y avait de la demande.
Et alors donc le morceau qu'on va écouter, il s'intitule Topaz. On va l'écouter d'ailleurs, je me tais. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Toujours longtemps, je me suis couché de bonheur. Toujours Francis Gavel en compagnie de Théo Jarier. On continue cette découverte alors du label Souffle Continu. Et alors là, Théo Jarier, on va parler d'un album qui sort la semaine prochaine. Donc c'est une avant-première, on vous en remercie. Et alors parlez-nous de cet album qui est quand même un joyau absolu.
Oui, c'est une découverte encore. À force d'aller chercher un peu autour des musiques dont on a déjà réédité des disques, on fouille et on tombe sur une musicienne bretonne qui a disparu depuis, qui s'appelle Christelle Noguès, et on découvre son premier disque, Mark Wes. Alors je sais pas si je le prononce bien parce que je me ferai reprendre par les Bretons. Elle chante en breton, mais elle est pas complètement ancrée dans la tradition de la folk bretonne, elle est à côté. Et c'est ce qui nous a plu. Alors ça peut faire penser effectivement à Emmanuel Paréna, ça peut faire penser un peu à Reski, Meredith Monk, Pascal Comelade. Elle est multi-instrumentiste comme Paréna, elle joue de la harpe celtique, mais pas que. Et ce premier disque est un disque étonnant. À l'intérieur des morceaux, on peut avoir plusieurs mélodies. Il y a des moments d'absence, il y a des moments de blanc, il y a des moments où elle laisse des silences, elle reprend, elle repart sur autre chose. C'est un disque vraiment très, très habité. Et c'est ce qui nous a plu. C'est pas qu'instrumental, c'est pas que chanter, c'est pas vraiment de la chanson. C'est ce côté hybride qui nous a
et je pense à un truc, c'est parce que vous avez parlé de lui tout à l'heure en parlant d'Alain Belaïch, et ça n'a pas un rapport direct, mais quelque part ça pourrait être dans une filiation aussi avec le premier album solo de David Crosby.
Oui.
Il y a peut-être moins rock,
vrai,
mais
il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais.
Mais avec le fait de s'autoriser à partir dans une autre direction que le début du morceau laissait supposer. Enfin.
Voilà, complètement. Ouais.
Et c'est ça
qu'on aime. On aime bien. On aime le voyage. Un disque qui se permet ça.
Et alors le morceau qu'on écoute s'intitule, je vous laisse, comme je vois que votre breton est...
Argemenerez.
On l'écoute tout de suite.
On la refera.